Allez, on va accueillir comme il se doit notre invité du jour. Voilà, et en rendez-vous mensuel. Voilà, toujours avec plaisir, Michel. Bonjour, Michel Favré.
Bonjour, Joël.
Allez, on va se lancer tout de suite. On donnera les coordonnées, bien sûr, même si j'ai déjà annoncé constellationgalaxie.org. Vous nous rappellerez d'ailleurs tout ce que vous faites parce que il y en a des activités, il y a de la passion. Mais là, on va rentrer dans le vif du sujet avec cette 18e chronique astro. Et de suite, bien rentrer dans l'actu, hein.
Voilà, il y a une actualité assez lourde et finalement on va parler pratiquement que de sujets d'actualité. À commencer par une chose toute bête, c'est pourquoi lundi on aura un 29 février cette année.
Et oui, pourquoi Michel ?
Voilà, alors j'avais déjà parlé des liens entre le calendrier et l'astronomie lors d'une de mes toutes premières chroniques, c'était le 31 décembre 2014. Donc pour une explication plus complète, j'invite les auditeurs à réécouter cette émission car elle est disponible comme toutes les autres chroniques astro mensuelles sur notre site web, hein, www.constellationsetgalaxies. Dans la revue de presse. Aujourd'hui, je vais juste revenir sur cette notion d'année bissextile et de 29 février. Ce système a été mis en place en 45 avant Jésus-Christ, sous le règne de Jules César, avec ce qu'on appelle le calendrier Julien, hein, Julien à cause de Jules César, inspiré par un astronome grec d'Égypte, Sosigène d'Alexandrie. Cette réforme consistait à passer d'un calendrier lunaire, car dans le calendrier, les 12 mois viennent en fait des lunaisons, à un calendrier solaire qui est plus pratique pour le respect des saisons et donc pour les travaux agricoles. On essayait donc de caler l'année sur la durée d'une révolution de la Terre autour du Soleil. Pour être précis, à cette époque, on ne connaissait pas encore ce mouvement, mais les observations astronomiques montraient un Soleil qui parcourait un grand cercle dans le ciel devant les étoiles fixes, comme si c'était lui qui tournait autour de la Terre. Le problème, c'est que ce cycle ne compte pas un nombre entier de jours, qui eux correspondent à une rotation de la Terre sur elle-même en 24 heures. C'est-à-dire, pour les astronomes de l'époque, le retour de la Terre plein sud à midi, en 24 heures. Un an fait dans les 365 jours un quart, c'est-à-dire 365 jours et 6 heures. Pour faire les 365 jours, il suffisait simplement d'ajouter 11 jours à l'ancienne année du calendrier lunaire, qu'on a tout simplement distribué à raison de 1 jour par mois, en produisant les mois de 30 et 31 jours que nous connaissons, sauf le 12e mois qui n'a rien reçu. Et comme l'ancien calendrier lunaire romain commençait le 1er mars, c'est février qui était le dernier mois et qui n'a pas bénéficié de cette augmentation et est resté le plus court. Pour tenir compte du quart de jour supplémentaire de l'année réelle par rapport aux 365 jours du calendrier, on a mis en place un système très simple. Le décalage de un quart de jour chaque année se cumule sur 4 ans pour faire un jour entier, qu'on compense donc en ajoutant un jour dans le calendrier tous les 4 ans, c'est-à-dire chaque fois que le numéro de l'année est divisé par 4, comme c'est le cas de 2016. Et quitte à mettre un jour supplémentaire dans l'année, le plus logique est d'ajouter au mois le plus court, c'est-à-dire février, et voilà pourquoi il y a un 29 février dans le calendrier des années bissextiles.
Alors Michel, d'où vient ce mot bissextile ?
Alors c'est un peu compliqué et ça va nous obliger de faire un peu de latin, ce qui n'est pas vraiment mon fort. Tout d'abord, une chose qui peut surprendre les auditeurs, c'est que même si dans le calendrier on voit surgir un 29 février, le vrai jour qui est ajouté du point de vue astronomique se situe entre le 24 et le 25. Mais le résultat elle-même, le mois de février, est plus long d'un jour par rapport aux années ordinaires. Ensuite, il faut examiner comment les Romains décomptaient les jours dans le mois. Bizarrement, au lieu de compter chronologiquement comme nous le faisons, le 1er, le 2, le 3, ils comptaient à rebours, un peu comme si on disait le 30e jour avant la fin du mois, le 29e, le 28e. Et dans cette façon de compter, le 24 février se disait le 6e jour avant mars, ce qui en latin donne sexto ante calendas martis. Alors je garantis pas la prononciation.
Si, hein. Si, j'étais latiniste, Michel, bravo, bravo.
Et lorsque tous les 4 ans on le double, ce qui se dit bis en latin, le jour supplémentaire s'appelle alors bis sexto ante calendas martis. Et c'est de ce bis sexto qu'est venu le nom bissextile en français. Alors pour être un peu plus complet sur cette notion d'année bissextile, je dois dire qu'en réalité, toutes les années divisées par 4 ne sont pas bissextiles. 2016, 2008 ou 2000 l'étaient, mais 1900 ne l'étaient pas. Pourtant, toutes les années multiples de 100 sont forcément divisées par 4, puisque 100 c'est 4 fois 25. Cette bizarrerie vient du calendrier grégorien que nous utilisons en France depuis 1582, sous le règne du pape Grégoire XIII, d'où le nom de calendrier grégorien. Tout vient d'un petit problème d'arrondi. Contrairement à ce que je disais tout à l'heure, l'année ne dure pas exactement 365 jours et un quart, mais elle est légèrement plus courte. La différence n'est que de 11 minutes par an, ce qui fait peu, mais cumulé sur des siècles, ça finit par se compter en jours. Avec le calendrier julien, on comptait 3 jours de trop tous les 400 ans, donc 3 années bissextiles de trop. Pour corriger cette erreur, La réforme du calendrier grégorien consistait à ne compter comme bissextile que les années de siècle dont le numéro de siècle était divisé par 4, ce qui supprime 3 années bissextiles tous les 4 siècles. Pour prendre un exemple concret, 1600 était bissextile parce que 16 est un multiple de 4. Mais 1700, 1800 et 1900 ne l'étaient pas, car 17, 18 et 19 ne sont pas divisibles par 4. En 2000 et 2000 l'étaient à nouveau. Ce qui fait que de 1700 à 2000, on a compté qu'une seule année bissextile au lieu de 4 dans le calendrier julien, et c'est exactement la rectification qu'il fallait faire. Avec ce système, on est tranquille pour un bon bout de temps, parce qu'on a calculé qu'on aurait un écart de 3 jours en 10 000 ans à peu près. Le plus difficile, ça a été de recaler le calendrier grégorien en 1582, car pour se resynchroniser avec les phénomènes astronomiques, comme les équinoxes et les solstices, donc au fond se recaler avec les saisons, il a fallu supprimer d'un coup 10 jours dans le calendrier, en passant directement du 4 octobre 1582 au 15 octobre. C'est un peu un saut dans le temps, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit en science-fiction. Il faut bien comprendre que le calendrier ne représente pas le vrai temps. C'est juste un moyen pour nous de noter le passage du temps d'une manière pratique pour nous. Alors, comme on le dit justement dans un roman de science-fiction que j'affectionne particulièrement, écrit par un Américain qui s'appelait Van Vogt dans les années 1940. D'ailleurs, c'était un sémiologue comme Umberto Eco qu'on vient de perdre et qui, bizarrement, avait utilisé le passage au calendrier grégorien dans l'intrigue de son roman « Le pendule de Foucault ». Donc, Van Vogt a écrit « Il ne faut pas confondre la carte et le terrain ». Donc, le temps, le vrai temps et le calendrier qui n'en est qu'une représentation. Je laisserai les auditeurs méditer un petit peu là-dessus.
Voilà, laissons-les méditer. Allez, parlez-nous des ondes gravitationnelles.
Oui, alors il y a eu une annonce, vous l'avez entendu, je pense, comme tout le monde, le 11 février, de chercheurs américains qui ont annoncé cette découverte historique. Alors si nos éditeurs fidèles, j'espère qu'il y en a quelques-uns que je ne fais pas fuir quand je passe à l'antenne, s'en souviennent, j'avais rapidement abordé le sujet dans ma chronique de novembre dernier, parce que j'avais parlé de la relativité générale à l'occasion de son centenaire. C'est en automne 1915 qu'Albert Einstein avait publié sa théorie. Et par une coïncidence un peu étonnante, c'est pratiquement pile un siècle plus tard, le 11 février dernier, qu'on a eu cette annonce de la découverte des ondes gravitationnelles prévues par la théorie. Dans ma chronique de novembre, j'avais d'ailleurs dit que les Européens de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, travaillaient aussi sur ce sujet, puisqu'on attendait ce jour-là le lancement de la sonde LISA, qui était un premier test pour une future expérience qui sera ELISA, Evolved Laser Interferometer Space Antenna, qui est prévu dans les années 2030 et qui devrait être un détecteur d'ondes gravitationnelles très sensible, car basé sur des satellites éloignés environ d'un million de kilomètres les uns des autres. Et comme on le verra, la dimension de ces installations joue un rôle important pour ces mesures.
Alors, que sont ces ondes gravitationnelles ?
Alors, dans la théorie de la gravitation de Newton, je vais revenir un petit peu en arrière, on peut voir l'espace et le temps comme une sorte de théâtre préexistant, rigide, dans lequel les acteurs, c'est-à-dire tous les objets, les masses, viennent jouer leur rôle en se déplaçant. La nouvelle théorie de la gravité exposée par Einstein dans sa relativité générale ne sépare plus d'un côté l'espace-temps, comme on appelle maintenant la combinaison des deux notions, et de l'autre les objets, mais il y a une interaction entre les masses et l'espace-temps. Dans ce modèle, l'espace-temps n'est plus rigide comme dans celui de Newton, mais on pourrait dire qu'il est devenu souple, ce qui est inclus dans les équations d'Einstein, mais bien difficile à représenter facilement. Les masses tordent l'espace-temps à leur voisinage. On essaie souvent de représenter ce concept de la manière suivante. Dans le modèle de Newton, une masse, par exemple la Terre, se déplace dans un espace rigide, comme une bille qui roulerait sur une table, par exemple. Pour expliquer qu'elle tourne autour du Soleil, donc une énorme boule qu'on placerait aussi sur la table, il faut nécessairement qu'il y ait une forme d'attraction entre les deux boules. Dans le modèle d'Einstein, l'espace-temps n'est plus rigide, mais déformable, comme par exemple un drap tendu. En plaçant l'énorme boule du Soleil sur le drap, la surface va se courber en formant une sorte de creux. Et si on lance la petite bille représentant la Terre sur cette surface, sa trajectoire va se courber pour suivre la forme du drap et elle va se mettre à tourner autour du Soleil. Il faut bien comprendre que cette représentation simpliste a des limites, parce qu'en réalité, ce que je vous explique là en deux dimensions, il faudrait pouvoir l'imaginer en trois. L'espace est tordu dans toutes les dimensions. Mais ça, c'est impossible pour notre cerveau. Ça ne peut se faire qu'à travers des équations mathématiques comme celle de la relativité.
Mais pour en revenir aux ondes gravitationnelles.
Alors, avec ce modèle d'un espace-temps souple, on peut facilement imaginer qu'il peut vibrer. Par exemple, si dans ma représentation avec le drap, on imagine que par un phénomène très violent, par exemple une énorme explosion, la boule représentant le Soleil disparaît presque instantanément du drap tendu, la surface va remonter brusquement et osciller plusieurs fois avant de retrouver son équilibre. Un peu comme les ronds à la surface de l'eau quand on y jette un caillou. C'est ça les ondes gravitationnelles prévues par Einstein, des vibrations de l'espace-temps. Et comme je viens juste de l'illustrer, on peut bien comprendre que pour qu'elles soient assez fortes pour être détectables, il faut qu'à l'origine ait lieu un événement violent qui concerne une ou des très grosses masses, comme celle d'une étoile. Un petit caillou jeté dans l'eau depuis la berge va faire des petites ondulations qui s'arrêtent très vite, alors que si on lance un gros parpaing depuis un pont, on va faire une énorme vague, bien plus importante, qui se propagera beaucoup plus loin sur la rivière. Avec les dispositifs actuels, on ne peut détecter que des événements astronomiques très violents de l'univers, mettant en jeu des grandes masses comme celles des étoiles. Par exemple, l'explosion d'une grosse étoile à la fin de sa vie, ce qu'on appelle une supernova, ou la collision de deux trous noirs, ce qui semble être le cas de l'annonce du 11 février, qui concerne une détection faite le 14 septembre.
Mais comment fonctionnent ces détecteurs, justement ?
Alors, pour le comprendre, on va oublier les ronds dans l'eau, qui sont une image assez imparfaite, et prendre plutôt les ondes sonores, qui sont une meilleure représentation des ondes gravitationnelles. D'ailleurs, je ne sais pas si les auditeurs l'ont remarqué, lors de l'annonce du 11 février, plusieurs astronomes interviewés dans les médias disaient qu'après la vision que nous avions de l'univers avec les télescopes, on venait enfin d'accéder au son avec les ondes gravitationnelles, ce qui bien entendu n'est qu'une image, hein, à ne pas prendre au pied de la lettre. Un son, c'est une onde de compression qui se propage dans l'air. C'est-à-dire que quand l'onde sonore passe à un endroit, par exemple dans notre oreille, l'air est alternativement comprimé puis détendu, ce qui fait vibrer notre tympan et permet la perception du son par notre corps. Si on transpose aux ondes gravitationnelles, à leur passage, l'espace est alternativement comprimé et détendu. Mais ça concerne aussi tout ce qu'il contient. Un immeuble, une voiture, notre corps ou la Terre entière est légèrement raccourci puis rallongé. Pour détecter cet effet, c'est très simple dans le principe. On va prendre une règle bien rigide et on va mesurer ces petites variations de longueur. Mais dans la pratique, c'est plus compliqué, car tout vibre en même temps. Donc il serait impossible de mesurer la longueur de la règle avec une autre règle de référence. Elle bouge de la même façon, elle se raccourcit de la même façon. On va donc prendre deux règles qu'on va placer à angle droit. Et comme l'onde se propage dans un certain sens, il y a forcément une des règles qui va varier plus en longueur que l'autre, et c'est la différence des effets entre les deux directions qu'on essaye de mesurer. Le problème ensuite, c'est la longueur des règles à utiliser. Si on imagine que la variation de longueur est de 1%, une règle de 10 cm ne change que de 1 mm, alors que si on prend une grande règle de 10 mètres, elle variera de 10 cm, ce qui est bien plus facile à mesurer. Pour les ondes gravitationnelles, on est sur des longueurs infimes, bien moins que le 1%. On doit donc utiliser des règles vraiment très longues. Le LIGO, hein, je le prononce à la française parce que je crois que les Américains disent LIGO, Laser Interferometer Gravitational Waves Observatory, donc le laboratoire américain où ont été détectées pour la première fois ces ondes, est une installation qui a des bras de 4 km de long, dans lesquels il faut maintenir le vide pour faire passer un faisceau laser qui va permettre de mesurer des variations de longueur minuscules. C'est un peu comme si on pouvait détecter l'épaisseur d'un cheveu posé sur la Lune depuis la Terre. C'est d'ailleurs en améliorant le système de mesure en 2015 que la détection de septembre a été possible. Dernier problème. Avec un détecteur aussi sensible, on capte toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec les ondes gravitationnelles. Par exemple, toutes les vibrations du sol. Aussi bien des ondes sismiques que le passage des voitures sur une route à des dizaines de kilomètres. Donc pour être sûr d'avoir observé une onde gravitationnelle, il faut deux détecteurs très éloignés l'un de l'autre pour pouvoir éliminer toutes les vibrations locales et observer exactement en même temps la même secousse. Le LIGO a deux installations identiques séparées de 3000 km, l'une dans l'état de Washington et l'autre en Louisiane. Et le 24 septembre dernier, ils ont pour la première fois détecté la même vibration au même moment. En réalité, il y a un décalage de 1 centième de seconde à peu près, parce que ces ondes se propagent à la vitesse de la lumière. Et du coup, l'existence des ondes gravitationnelles venait enfin d'être prouvée 100 ans après qu'Einstein les a imaginées dans ses équations.
Alors, si on en revient à des choses plus concrètes, avez-vous vu la vidéo, justement ?
Du météore au-dessus des Alpes.
De la météore au-dessus des Alpes, bien sûr.
Oui. Alors, ce sont des images assez impressionnantes, mais s'il ne s'agit probablement que d'un objet plutôt petit. On parle d'une petite météorite, peut-être de la taille d'une balle de tennis, qui s'est désintégrée dans notre atmosphère. C'est bien moins spectaculaire que le météore de Tcheliabinsk, hein, si je prononce à peu près bien, du 15 février 2013, qui avait provoqué des dégâts et fait pas mal de blessés, surtout de manière indirecte, hein, parce que des vitres avaient explosé sous l'effet de l'onde de choc. Alors, il faut rappeler aux auditeurs que le phénomène lumineux est bien plus spectaculaire que la taille de l'objet qui entre dans l'atmosphère. La plupart des étoiles filantes qu'on aperçoit fugitivement comme un trait dans le ciel ne sont pas plus grosses que des graviers ou des gros grains de sable qui n'atteignent jamais le sol, mais se consument à environ 80 km d'altitude. Elles sont plus lumineuses et semblent laisser une trace persistante quand il s'agit d'un petit caillou, comme ça doit être le cas de celui du 17 février dans les Alpes. Ce qui cause cette grande luminosité, c'est une très grande température qu'on mesure en milliers de degrés, due au frottement sur l'air de l'objet avec une vitesse énorme. Pour comprendre cette vitesse, on peut revenir au calendrier dont on parlait tout à l'heure. La Terre effectue une révolution complète autour du Soleil en un an. Mais cela représente un trajet considérable, car avec un rayon moyen de 150 millions de kilomètres, l'orbite fait presque 1 milliard de kilomètres de longueur. La Terre se déplace donc très vite, dans les 30 km par seconde. À titre de comparaison, une balle de fusil ne se déplace qu'à environ 1 km par seconde. La Terre va donc environ 30 fois plus vite dans son mouvement autour du Soleil qu'une balle de fusil. C'est toujours difficile à croire, hein, notamment pour les enfants que j'accueille dans notre planétarium, car nous ne ressentons rien alors que nous fonçons à une vitesse d'à peu près 100 000 km à l'heure. Si un petit caillou traîne dans l'espace devant nous, il va donc entrer dans notre atmosphère à une vitesse de cet ordre-là. On dit souvent dans les 50 à 60 000 km/h, car cela dépend si on le prend bien en face ou un peu de biais. Avec une telle vitesse, le simple frottement de l'air provoque un échauffement énorme et fait fondre complètement le petit gravier, ou seulement en partie si c'est un caillou un peu plus gros. Pour finir sur ce sujet, les auditeurs ont peut-être entendu dans les reportages parler de fripons, hein, ce qui veut dire Fireball Recovery and Interplanetary Observation Network. Afin de mieux étudier ces météores, un réseau d'une centaine de stations se met en place en France, hein, c'est le plus grand du monde entier. Et ces stations sont constituées d'une caméra extérieure qui photographie en permanence tout le ciel et d'un système informatique et Internet pour partager toutes ces informations. Il y en aura au final environ une par département, par exemple ici à l'Observatoire de Bordeaux, tout près, ou à côté de Périgueux sur le site de mon club d'astronomes amateurs AstroFEP. C'est un bon exemple de science participative avec une coopération entre astronomes professionnels et amateurs, comme j'ai déjà eu l'occasion de les évoquer ici. L'objectif, c'est de filmer depuis au moins 3 des stations le passage d'un météore très lumineux dans le ciel pour que par triangulation, on puisse reconstituer sa trajectoire en 3D et savoir à la fois d'où il venait et où il est tombé, en espérant bien sûr pouvoir un jour récupérer des petits morceaux. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné le 17 février car le déploiement n'est pas terminé. Il n'y avait que 25 stations en service début janvier et contrairement à celle de l'Aquitaine, celles prévues dans l'Est où a eu lieu l'observation ne sont pas encore toutes opérationnelles. Mais comme on estime qu'il tombe quelques milliers de tonnes de roches extraterrestres chaque année, ce n'est, je pense, que partie remise.
Allez, dernière partie de votre chronique, Michel. Vous allez nous parler du ciel du mois et pour cette première partie, la voûte céleste et les constellations.
Alors en mars, on commence la transition entre le ciel de l'hiver et celui de l'automne. La constellation typique de l'hiver est Orion, qui forme une silhouette humaine dans le ciel. En ce moment, en début de nuit, c'est-à-dire un peu avant 20h, il est presque pile au sud. Mais à la fin du mois de mars, toujours en début de nuit, il aura déjà bien commencé sa descente au sud-ouest. À noter qu'avec l'allongement des jours, mais surtout le passage à l'heure d'été, la nuit noire ne commencera alors que vers 21h30, hein, fin mars. Pour le ciel du printemps, c'est la constellation du Lion, assez facile à reconnaître, avec le groupe d'étoiles de sa crinière qui forme comme une faucille dans le ciel. En ce moment, il se lève à l'est en début de nuit noire, mais à la fin du mois, il sera déjà au sud-est assez haut dans le ciel. Il est très facile à situer, car Jupiter l'accompagne, une planète très brillante comme un phare blanc intense au milieu des étoiles. Si on essaie de dessiner la constellation, Jupiter se situe dans la patte arrière du Lion. Alors pour ce qui concerne les détails des constellations, hein, comme il n'est pas facile de faire des dessins à la radio, je préfère comme à chaque fois renvoyer les auditeurs à notre site web, hein, www.constellationsetgalaxies.org et aller dans la rubrique Astronomie, le ciel du mois.
Voilà, puis je me répète, mais on réitérera ces informations également via notre Facebook. Allez, parlez-nous des planètes.
Alors, je viens de parler de Jupiter qui est vraiment la planète vedette du moment car on la voit toute la nuit jusqu'à l'aube où elle n'est pas encore couchée. Pour les autres planètes, c'est plus tard qu'on peut les voir, plutôt en deuxième partie de nuit. Mais le bel alignement de 5 planètes visibles à l'œil nu un peu avant l'aube que j'avais signalé le mois dernier n'existe plus, car Mercure et Vénus disparaissent maintenant dans les lueurs de l'aube. On pourra voir encore Vénus quelques temps car elle est très brillante, mais pour Mercure c'est fini, j'ai encore vu dans une paire de jumelles il y a une semaine, mais c'était déjà très difficile. Il reste donc Mars, qui est bien reconnaissable à sa couleur orangée, et Saturne, qui a une teinte un peu jaunâtre. En ce moment, Mars se lève vers 1h30 du matin, et en fin de mois, ce sera vers 1h, mais toujours pareil, en heure d'été. Il est devenu déjà bien brillant, car on se rapproche de son opposition du mois de mai, je crois qu'on reviendra dessus dans une prochaine chronique. Donc il est aussi brillant que les étoiles les plus brillantes du ciel. Saturne se lève actuellement à peu près à 3h du matin, mais ce sera vers 2h en fin de mois, toujours en heure d'été. Il a presque le même éclat que Mars. Pour situer Saturne ces jours-ci, une fois qu'on a repéré Jupiter, qui est très brillant dans le ciel, et Mars, qui est un peu orangé, on trouverait Saturne en prolongeant la ligne entre ces deux planètes et en prolongeant d'à peu près un tiers de la longueur Jupiter-Mars à l'est de Mars. On peut aussi prendre un autre repère, hein, j'aime bien essayer d'illustrer les choses simplement. Ce serait à peu près la largeur d'une main à bout de bras entre Mars et Saturne. En fin de mois, ils se seront un petit peu rapprochés par rapport à la situation actuelle.
Allez, troisième partie de ce ciel du mois, les éphémérides.
Alors, il n'y a pas de phénomène particulier, hein, sauf les habituels rapprochements de la Lune avec les planètes, hein, qui fait toujours des beaux spectacles, du moins s'il n'y a pas de nuages, et peut-être de belles photos, hein, c'est pas compliqué à faire. Le mardi 1er, le quartier de Lune se lèvera avec Mars. Le lendemain, mercredi 2, il se lèvera avec Saturne. Le mardi 22, la Lune presque pleine accompagnera Jupiter dans le ciel. Et le mardi 29, elle sera de nouveau près de Mars, en formant un triangle avec Saturne et pas très loin Antarès, une étoile brillante qui a une couleur orangée très ressemblante à Mars. D'ailleurs, c'est ce qui lui vaut son nom. Hein. Antarès, en grec, ça veut dire l'autre Mars. Arès était le nom de Mars en grec. Deux petites choses quand même à signaler à propos du calendrier. Le dimanche 20 mars, c'est l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire l'un des deux jours de l'année où le soleil passe exactement la moitié de la journée dans le ciel, c'est-à-dire 12 heures, et où il se lève pile à l'est et se couche pile à l'ouest. Ça n'arrive que deux fois dans l'année. Une semaine plus tard, dans la nuit du 26 au dimanche 27, on passera à l'heure d'été. Donc à 2 heures, nos horloges devraient sauter directement à 3 heures. Mais ça n'a aucun rapport avec l'astronomie. C'est juste un système pour essayer d'économiser un peu d'énergie, avec des soirées plus longues où l'on n'a pas besoin d'allumer les éclairages et donc consommer un peu moins d'électricité. Pour les astronomes, ce n'est pas un cadeau, car en fait, il faut attendre une heure de plus pour voir arriver la nuit.
Allez, merci Michel pour cette 18e chronique. On ne va pas se quitter comme ça, bien sûr. Rappelez-nous, hein, constellations et galaxies. Alors, .org, il y a toutes les infos, mais voilà, dans les grandes lignes, vos missions.
Dans les grandes lignes, je pourrais prendre un peu l'organisation du site. Hein. Donc, Constellations et Galaxies, c'est une association qui est basée en Dordogne, près de Mussidan, mais qui a des activités qui s'étendent sur une bonne partie du nord de l'Aquitaine et même un petit peu au-delà. Je dirais que maintenant, on avait peut-être un peu anticipé la grande région puisqu'on va jusque dans la Charente-Maritime ou la Corrèze. Notre activité principale, c'est l'éducation à l'astronomie, en particulier avec un planétarium itinérant, c'est-à-dire une structure gonflable avec un projecteur spécial qui permet de voir le ciel comme s'il faisait nuit, les étoiles, les planètes. Il se déplace, alors souvent c'est dans des écoles, des collèges, parfois des centres de loisirs, sur toute la région dont je viens vous signaler, et on trouve ça facilement sur le site web, hein, quelle place il faut pour l'installer, qu'est-ce qu'on aborde comme sujet dans les séances, qui est toujours discutable avec par exemple les professeurs qui nous accueillent. Et puis un petit peu les tarifs, parce que malheureusement, c'est pas gratuit. Et bien sûr, il y a aussi la partie astronomie, avec par exemple le ciel du mois et les cartes que je mets à jour mois par mois. Là, on est encore sur la carte de février, puisque le mois n'est pas tout à fait fini. Mais je pense qu'à partir du week-end prochain, on aura les cartes de Mars et on pourra voir les figures, par exemple, d'Orion, dont je vous parlais tout à l'heure, d'Orion et du Lion, dont je vous parlais tout à l'heure.
Très bien, Michel, rendez-vous le mois prochain, le 30 mars, mercredi, même endroit, même heure.
Exactement.
Allez, merci. Merci beaucoup. Puis on mettra toutes ces infos, bien sûr, je me répète, via Facebook.